France Culture.
C'est une journée inoubliable que vient de vivre Alger. Parce que le premier problème de l'heure est l'Algérie, le président de Gaulle a voulu que le premier acte de son gouvernement soit une visite à Alger. Le général devait trouver tout le long des 20 km qui séparent Alger de Maison-Blanche la même foule mêlée venue pour l'acclamer.
Mais on disait toujours, l'indépendance a commencé en Tunisie, après ça a été le Maroc, on se disait bien, l'Algérie ne peut pas rester française. Et ce comte de Gaulle qui venait crier, tous français de Dunkerque à Tamandracet, vive l'Algérie française.
Je vois ce que vous avez voulu faire. La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Moi, de Gaulle, j'ouvre la porte de la réconciliation.
Ça a soulevé tous les Français qui étaient là-bas. Il faut qu'on parle de l'Algérie française, de Gaulle, il nous le dit, c'est vrai. C'était plus facile de préparer les Français, doucement, de les faire venir et de dire aux Arabes, l'Algérie, sera comme le Maroc et la Tunisie, indépendante, on vous aidera, et pas établir une guerre et tuer des gens, et tuer des jeunes.
Les pieds noirs d'Algérie, la colonisation pour mémoire. Une série documentaire de Marceau Vassy, réalisée par Cécile Lafont. Épisode 1. Des descendants face à leur histoire.
Après, on est arrivé en France et les Français ne pouvaient pas avoir les pieds noirs. Je comprends. Il y avait des familles françaises qui avaient perdu leurs enfants là-bas.
Ça, c'est en Algérie ou pas?
Ça, c'est en Algérie. Eh bien, moi, je suis sur le bateau et...
Et là, c'était en Algérie avec...
Ça, c'est en Algérie, devant chez moi.
Devant votre maison?
Oui, mon père et ma mère.
Vous avez enregistré votre mère, donc. Est-ce que vous pouvez raconter un peu pourquoi vous avez fait ça et qu'est-ce que vous avez récolté auprès d'elle?
J'ai fait ça pour un échange avec elle et pour qu'elle me laisse une trace aussi de sa vie là-bas.
Magali Montoya.
Elle disait souvent là-bas. Les pieds noirs, enfin mes parents en tout cas, ils disaient souvent là-bas. Là-bas, ça pouvait être. À bout d'un moment, moi j'ai compris que là-bas, c'était de l'autre côté de la Méditerranée, c'était là-bas, quoi. Voilà. Ouais, j'avais envie qu'elle raconte, qu'elle parle. Puis ça lui faisait très plaisir aussi qu'on ait cet échange-là. Je lui avais même demandé, je lui avais dit, écris ton journal, écris quelque chose, enfin pour qu'elle s'occupe, parce qu'on était loin géographiquement quand même. Et puis pour son petit-fils aussi, avec qui elle avait un rapport très très fort et à qui elle racontait très généreusement beaucoup de choses. Et voilà.
Tu l'as lu, hein?
Ça, c'est quoi? C'est la photo du le voyage du retour ou quoi?
Ça, c'est le voyage du retour. À Oran, attendait le bateau, ma fille.
Et ça, tiens, c'est sur le bateau?
Ça, c'est sur le bateau, ma fille.
17 avril.
Je suis arrivée.
Du jour de rapatriement, 17 avril. 17 avril. Oui.
Et mon père et ma mère sont nés en Algérie, du côté des grands-parents, l'immigration espagnole, mais mes grands-mères étaient illettrées, enfin, donc c'était des gens très, 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 très modestes. Donc vraiment, c'était ce mouvement de migration pour aller trouver du travail, faire famille dans un pays, s'installer, vivre mieux, voilà. Donc mon lien à cette histoire, c'est ça. Et c'est mes parents qui sont nés là-bas, donc de parents espagnols, mais nés sur le sol algérien français à l'époque, donc droit du sol, qui sont nés français et pieds noirs, voilà.
Comme les parents de Magali, ma mère est née en Algérie. Ses ancêtres, originaires de Corrèze, se sont installés dans la région d'Oran en 1870. Ma mère est donc une pied noire. Et comme près d'un million de ses semblables, elle a dû quitter, autour de l'année 1962, cette terre qui était la sienne, mais qui appartenait pourtant à un autre peuple. S'en est suivi un exil, la fin d'un monde, celui de l'enfance, des ancêtres, celui de l'Algérie française. La fin aussi d'un système colonial ayant duré 132 ans et qui se sera écroulé au cours d'une guerre sanglante ayant fait plusieurs centaines de milliers de victimes. Ma mère a gardé de cette histoire une blessure invisible, mais toujours vive et sensible, laissant penser qu'elle ne s'est jamais complètement cicatrisée. Je me souviens ainsi d'avoir vu, lorsque j'étais étudiant, les passions qui pouvaient s'agréger autour de cette mémoire pied-noir lorsque j'avais voulu débattre avec elle de la colonisation. Elle m'a souvent parlé de l'Algérie, de sa vie là-bas. Mais comme toujours, de l'adulte à l'enfant, les récits sont parcellaires. Et la mémoire ne retient que quelques fragments d'un puzzle beaucoup plus vaste qui nécessite d'aller chercher les pièces manquantes. C'est ce qu'a fait Magali en interviewant sa mère, et c'est ce que je souhaite faire dans cette série documentaire. Reconstituer le puzzle d'une communauté, celle des pieds-noirs d'Algérie et de leurs descendants.
Alors c'est assez étrange parce que toute petite, je me souviens que y avait des moments où j'étais fière de dire « mes parents, ils sont pieds-noirs ». Et puis il y avait des moments où j'avais comme un peu honte, je ne savais pas pourquoi, il y avait quelque chose de... Ben aussi, c'était peut-être sans doute lié à l'accueil. On avait dû me raconter quand même que ça n'avait pas été si simple et que c'était... voilà. Je sais que à Sète, il y avait des réunions des gens du village de ma mère, les Détriens. Donc chaque année, ils se réunissaient et c'était assez folklorique, hein, parce que entendre l'accent, mais l'entendre par 200 personnes qui se réunissent là, quoi. Mais ça pouvait m'amuser, mais à un moment, je me suis éloignée de ça, voilà, en disant c'est leur vie, et puis maintenant, moi. Puis voilà, il y a toujours le fond de la colonisation quand même derrière ça, qui est, enfin pour moi en tout cas, qui reste. On choisit pas, hein. Et eux non plus, mes parents n'ont pas choisi où ils sont nés, dans quelle histoire ils se sont inscrits, posés. Et j'ai envie de dire, on choisit encore moins quand c'est des gens modestes et tout ça, ils choisissent encore moins, quoi. C'est comme. Les gens ont toujours eu besoin de migrer, surtout quand ils sont pauvres et surtout quand ils pensent pouvoir trouver mieux ailleurs.
Est-ce que vous savez ce que c'est les pieds noirs ?
Oui, pieds noirs.
Oui, moi je sais.
C'est quoi,
ceux qui étaient à la guerre d'Algérie et ils sont nés en Algérie, mais ils sont français.
Est-ce que vous en connaissez ?
Non.
Ouais, c'est du coup la deuxième génération d'Algériens qui sont arrivés en France.
Les pieds noirs, ce sont les Algériens.
Alors je sais, mais je pourrais pas donner une définition. Mais il y a un rapport avec l'Algérie.
Bah, les pieds noirs, ça veut dire que c'est des personnes qui se sont installées dans une colonie de peuplement. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une colonie de peuplement, mais voilà.
Et les personnes françaises qui, me semble, sont parties vivre en Algérie pendant que l'Algérie était un département français et qui, du coup, après l'indépendance de l'Algérie, sont revenues en France et on les considérait comme pieds noirs, je crois que c'est ça.
Alors, la définition exacte du pied noir, c'est né en Algérie. D'où vient le nom ? On n'a jamais su exactement. Alors, certains disent que c'est les vieux de l'époque, hein, 1830, qui avaient des guêtres en cuir noir jusqu'aux genoux. Donc, les Arabes les appelaient pieds noirs, parce qu'ils marchaient pieds nus, hein, à l'époque. Hein, voilà. Et surtout, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en Algérie, on n'a jamais entendu ce nom. Il a fallu qu'on vienne en France pour qu'on sache qu'on était pieds noirs, quoi. C'est un truc qui est sorti comme ça, à la fin de la guerre, c'est les pieds noirs, on a dit, on est pieds noirs.
Ce qui me semble intéressant, c'est de dire que le terme pieds noirs apparaît parce que finalement, on ne sait pas comment véritablement appeler cette population française d'Afrique du Nord qui est française et de citoyenneté française.
Jens Kjeldøs-Urker, historien.
Donc le terme a une grande popularité parce qu'il désigne une population qu'on ne sait pas vraiment nommer. Alors, quand est-ce qu'il apparaît ? Bon, alors, un algérianiste convaincu vous dirait que le terme apparaît à la fin du 19e siècle et qu'il désigne soit les guêtres des soldats qui sont venus participer à la conquête du territoire algérien. Certains disent que il symboliserait les pieds noirs des vignerons lorsqu'ils foulent le raisin après les récoltes. Et on sait que la culture de la vigne a été extrêmement importante lorsque l'agriculture capitaliste se développe en Algérie. D'autres vous diront qu'il a connu sa popularité à cause de Tintin qui, dans un album, sans doute le premier, combat une tribu de pieds noirs. Bon, les légendes sont multiples. Mais ce qui est intéressant, c'est son usage. Et son usage montre que il permet de nommer une population sans trop rentrer dans les complexités des catégories politiques de l'Algérie coloniale.
L'histoire de la présence française en Algérie, elle débute, comme on le sait tous, en 1830, avec la conquête d'Alger. Et il faut savoir que la conquête, elle va s'accompagner en fait de tout un processus de domination coloniale qui va s'accompagner de mouvements migratoires très importants.
Karima Diresh, historienne.
On a des migrations qui sont constituées par des migrants majoritairement pauvres ou déclassés, qui viennent d'Espagne, qui viennent de Malte, qui viennent d'Italie, et qui sont en fait motivés par l'idée de faire fortune ou tout simplement de trouver des conditions de vie voilà, qui pourraient leur permettre de vivre correctement. Et donc, à la fin des années 1840, par exemple, on a à peu près 50 000 Français en Algérie, 30 000 Espagnols, 9 000 Maltais, à peu près 9 000 Italiens. Toutes ces personnes-là sont présentes en Algérie et les autorités françaises encouragent justement ces migrations puisque l'idée, c'est de venir occuper un territoire en faisant d'une certaine façon la publicité d'un territoire qui peut assurer des ailleurs fortunés.
La première distinction des populations dans l'Algérie coloniale, c'est européen d'un côté, indigène de l'autre. Européen coupé par la nationalité, et de l'autre côté, les indigènes sont coupés par leur confession, c'est-à-dire qu'on distingue les juifs et les musulmans.
Éric Savarez, historien.
Donc c'est un truc assez extraordinaire. En ce moment, je travaille sur la démographie. Je pense que la démographie, c'est la science coloniale par excellence. Ils passent leur temps à se compter. Ils passent leur temps à compter comme il y a d'Espagnols, comme il y a d'Italiens, comme il y a de musulmans, comme il y a de juifs, etc., etc. Parce que tout le problème de la colonie de peuplement repose sur ces équilibres démographiques. Après, là-dedans, d'un point de vue socio-économique, vous avez finalement les grands colons propriétaires terriens, c'est une infime minorité. Le gros de la population, c'est du maçon, du postier, du petit fonctionnaire, du limonadier, du journalier. C'est pas une population très riche, faut pas croire. Et qui a un niveau de vie même inférieur, celui-là, moyen, 20% inférieur, je crois, à peu près, à ceux des Français de métropole.
À la fin des années 1880, c'est-à-dire 1889, tous les fils d'étrangers qui sont nés en Algérie vont être naturalisés, vont devenir français et vont venir en fait s'associer avec les juifs algériens qui avaient été déclarés français en 1870 avec le décret Crémieux. Et toutes ces populations très différentes, très hétérogènes, elles vont accéder à la citoyenneté française, tandis que les musulmans, qui, je rappelle, représentaient la majorité démographique de ce territoire, vont rester enfermés dans un statut juridique inférieur et dans des conditions de vie discriminatoires qui étaient légitimées par le fameux code de l'indigénat. C'est-à-dire qu'on a affaire vraiment à une population qui, même si elle est majoritaire démographiquement, est totalement enfermée dans une subalternité juridique, économique et sociale. Et cette population européenne, qui est constituée par tous ces groupes de populations, donc de migrants, vont constituer ce qu'on va appeler, évidemment, la population pied-noir. Et cette population pied-noir est bien évidemment, au cours de l'année 1962, dans ses composantes très, très, très différentes, va être, d'une certaine façon, liée par un destin commun qui va être celui de l'exil.
Donc, je m'appelle Pierre Arella, je suis né en 1936 à Guelma, qui est l'est de l'Algérie. Et ma famille est originaire de deux régions différentes, deux pays différents, c'est-à-dire du côté de mon père, c'est l'Italie et la Calabre, et du côté de ma mère, c'est l'Ain, la région de Bourg-en-Bresse, et puis la région de Rodez, c'est là. Et donc, moi, j'ai fait des études secondaires dans un lycée à Bonn, qui s'appelle maintenant Annaba. Et j'ai fait l'école d'officier de réserve de Cherchel, en Algérie, et mon service militaire, donc, en Algérie, pendant la guerre.
Quel est déjà, à l'époque, votre point de vue sur les velléités d'indépendance ?
Mon point de vue, c'était si l'on pouvait conserver l'Algérie les départements français en France, c'était bien pour nous, parce que j'étais né là, j'en étais la cinquième génération, mais dès que je suis entré en action dans véritablement la guerre, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'avenir pour la France. Pour moi, c'était une certitude, et j'écrivais à mes parents qu'il fallait prendre des dispositions pour revenir en France, parce que il n'y avait aucun avenir en Algérie, quoi. Je suis parti d'Algérie de façon détachée, très bizarrement détachée, et tellement persuadé qu'il n'y avait aucun avenir. Et d'ailleurs, j'y suis retourné il y a 14 ans pour emmener mes enfants et leur montrer les lieux où j'avais vécu. Et je n'ai eu aucune émotion parce que c'était vraiment plus mon pays, quoi. C'était... Mes enfants ont été très, très sensibles, mais moi, non. Mais je leur en avais tellement parlé qu'ils ont été, ma fille a été très touchée par le lieu, par la maison, par... Mais je n'ai pas eu de rancœur particulière, si vous voulez. Je peux comprendre, mais vraiment, vraiment, surtout avec le recul, ça fait quand même 50, 60 ans pour moi. Et...
Vous y pensez souvent, à l'Algérie ?
Tous les jours. Tous les jours. Et je m'intéresse à ce qui se passe en Algérie. Et je m'intéresse à la politique algérienne. C'est bizarre comme tout. Évidemment, on se sent toujours coupable parce qu'on nous rabâche tellement qu'on a été des colonialistes. En quoi j'ai été colonialiste? Cinquième génération, je suis né dans un pays. J'étais colonialiste de quoi? J'ai vécu où je suis né, puis c'est tout. Bon. Non, c'était la France qui voulait, peut-être elle colonialiste, c'était peut-être, mais pas les habitants. À l'heure actuelle, évidemment, la repentance est pénible à vivre, même pour moi, qui était un petit peu atypique, où la repentance elle est fondée, si vous voulez. Les fondés, il y a eu des abus, il y a eu beaucoup de choses, mais il y a eu aussi beaucoup de choses dont on ne parle pas et qui ont été très, très bonnes, très bonnes. Je ne sais pas exprimer un petit peu les nuances. Quand vous vous laissez toute votre vie, tout votre passé, toutes vos racines, C'est difficile. C'est très difficile. Mais bon, ça me laisse un peu sans voix parce que je suis un peu ému, là. C'est difficile, mais voilà. Parce que c'est tout votre être qui est habité. Habité par vos jeux d'enfants, parce que tout ce que vous avez vécu de fort, de... Bon, c'est tout. J'ai un cousin germain très très proche de moi, qui vient de décéder là, au mois de décembre. 89 ans, on a toujours été élevés ensemble, on a joué tout le temps ensemble en Algérie. Et on a énormément de souvenirs jusqu'à l'arrivée en France, ensemble. Et puis ensuite, on s'est perdu de vue, si vous voulez. Il était à Orléans, mais on ne se voyait pas. Ça me manquait beaucoup. Mais quand on m'a dit qu'il était dans un hôpital et que c'était la fin, alors là, je suis allé à l'hôpital et on ne parlait que de nos souvenirs d'Algérie. On a ressorti le livre... Il y a un livre de souvenirs de notre ville. On feuilletait ce livre-là. Et la dernière fois où je l'ai vu, donc je l'ai vu le 24 décembre, Quand je partais, il me disait souvenir, souvenir, souvenir. Souvenir, souvenir. Voilà, c'était la période de notre vie avant. Après, c'est une vie commune. C'est pas la même vie. C'est différent.
Comme beaucoup de descendants d'Européens d'Algérie, des questions sont apparues au début de l'âge adulte. Dois-je, moi aussi, me considérer comme un pied noir ? S'agit-il d'une identité, d'une culture, de quelque chose dont on hérite ? Dois-je être fier de mes origines ? Ou au contraire me taire à leurs propos, me sentir coupable vis-à-vis d'elles ? Comment faire face, en tant que génération de l'après, à cette tension entre histoire et récits familiaux ?
Je suis Laurence, je suis parisienne, j'ai 50 ans. J'ai donné rendez-vous à Frédéric, qui est mon cousin. On s'est retrouvés en fait dans le salon de thé de son parrain, enfin Frédéric. Je pense que tu donneras plus de précisions par rapport à cette branche de la famille où on se trouve.
Oui, effectivement. C'est mon parrain, en fait, c'est le cousin de mon père, cousin germain de mon père.
Frédéric et Laurence sont cousins éloignés et appartiennent à la même famille que Pierre Arella. Tous les deux sont enfants de pieds noirs, mais leur rapport à cette histoire diffère, soulignant ainsi les tensions qui se jouent pour la génération suivante, tiraillées entre curiosité et rejet, transmission et silence.
Quand j'étais petite, les rencontres pieds noirs, pour moi, c'était mais juste l'angoisse, quoi. Donc,
4 heures à table.
cette crainte de la nostalgie, donc c'était l'enfer pour moi de me dire que j'allais me plonger dans une après-midi entière de nostalgie. Donc, je me suis jamais sentie pied noir. J'ai un héritage culturel pied noir.
Ouais, non, moi j'aimais bien les repas comme ça à table. Avoir admiration de voir mes oncles discuter, raconter des anecdotes. Moi j'étais trop heureux, mais je me sens pas pied noir. J'ai compris mes origines à travers juste des anecdotes de repas de famille. Tu te rappelles ça, etc. Quand on allait là, quand on faisait ça. Pourquoi on a pris ce gros buffet et on n'a pas pris d'autres souvenirs qui étaient beaucoup plus utiles? Nous, on était serrés autour de la table parce qu'il y a le buffet. Et à chaque fois, c'était oui, bah oui, maman, t'as vu, tu as ton buffet maintenant. Mais...
Et vous avez la malle, la cantine aussi avec le nom.
Chacun avait le droit à une malle. C'était, je crois que c'est l'État français qui avait donné l'autorisation. C'est un conteneur par famille et une malle par personne.
Et Donc chacun a sa cantine avec le patronyme dessus.
Vous avez toujours.
Moi, c'est allé chez ma tante.
C'est plus tard que je me suis intéressé. Mon père vieillissant, moi voyageant beaucoup, je trouvais ça personnellement hallucinant que de ne pas retourner en Algérie pour voir ses maisons d'enfance, etc. Et ça s'est bien passé et on a été accueillis comme des princes là-bas. C'est ça qui était surprenant, quoi. Et donc, on a fait des rencontres assez formidables. On y allait un peu au culot. Donc, mon père, il a sonné c'était sa maison de famille, etc. Et il y a quelqu'un qui nous ouvre. Il se présente, je m'appelle Arella, j'habitais là avant, etc. Ben, bien sûr. Et en fait, en questionnant, c'était le fils de la bonne que mes grands-parents avaient. Quand ils ont quitté, ils ont laissé la maison, ils ont dit à la bonne, tiens, je te laisse les clés. Et en fait, la bonne habitait là, donc elle était âgée, elle a fait amener toute sa famille, et ils ont occupé les appartements, et sans aucune retenue, il nous a fait visiter la maison, qui était drôle, parce qu'il n'avait rien bougé. Il me disait, ah mais le lustre c'est le même, la norme, ils n'avaient rien bougé. Donc c'était assez, alors lui forcément plein d'émotions, sur la terrasse, a appelé sa sœur en disant, c'est la photo qui est sur la cassette vidéo. Quand il y a mon père avec le téléphone, il est sur la terrasse, et il téléphone à sa sœur en disant, je suis sur la terrasse de la maison de famille.
Tout va bien. On est reçus comme des chefs. Vraiment bien. Ils sont tous sympathiques.
Je ne sais pas l'Algérie. Je sais mal la colonisation. Du moins ce qu'en disent les livres, les images. Celles des battus au sang, des peaux brûlées par autre chose que le soleil, la fumée crachée et l'os rompu. Je ne sais pas l'exil, le départ forcé, l'abandon. Je sais juste la rage de l'injustice qui ne se partage pas. Je sais de loin, de très loin, le passé, l'année 1962, le soulèvement final des invisibles, la panique des installés depuis tant et tant, et les bateaux lestés de meubles comme un cargo de colère, la ligne d'horizon où tremblent ces paysages noircis. Je ne sais pas Alger, ces ruelles où se déhanchent des ânes, ses côtoiements et ses évitements, et sa mère quittée par de prétendus ancêtres pour un presque toujours. Je sais en revanche les propos âcres et comme noircis au charbon des pieds noirs, leurs allusions rouillées, tout ce fastidieux rituel de la nostalgérie où clapote l'amertume et quelque chose de moins suave. Je ne sais pas la famille, pas vraiment. Moule brisée, vase fêlé. Je ne sais pas l'arabe. Rien de ses signes, de ses sens, de sa gorge. Je sais la coupure, le rejet, le déni. Christophe Claro, La maison indigène.
À un moment donné, j'ai proposé à mon père qu'on aille en Algérie. Mon père donc m'a dit non. Je pense qu'il a tout de suite eu l'image, lui, des cimetières qui n'avaient pas été entretenus. Enfin voilà, il y avait quelque chose, une blessure qui était très forte. Et je suis retombée, en fait, sur une VHS, donc, de votre voyage. Alors, j'ai plus le titre exact, mais en tout cas, sur cette VHS, il y a marqué « Guelma ». Il y a de la...
Alors, c'est... Est-ce que... Un joie et de souvenirs retrouvés, ou quelque chose comme ça. Enfin, sur un côté
voilà,
très positif.
Voilà, il y a le mot « joie », alors que moi, j'avais quelque chose qui me semblait plutôt un récit de peine, en fait. Mm.
Dans la nostalgie, il y a toujours un côté triste, donc c'est ça qui ressort chez chacun. C'est vrai que ça, si tu m'en as parlé, c'est assez surprenant, parce que moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Quoi.
En tout cas, mon rapport à cette histoire pied noir, elle aurait forcément été radicalement différente si ça avait pu se faire de partir ensemble en Algérie, d'aller à Tébessa, et même les rencontres en fait, que vous avez pu faire. Ce qui est certain, c'est que je pense que ce qui, pour moi, n'est pas transmissible de l'histoire de mon père, c'était au moins une possibilité de partage. C'est là-dessus que ça aurait pu changer. Et je pense que mon père veut se défendre, en tout cas, de... Bah, en fait, nous, on était très intégrés, très mélangés avec les Algériens qui avaient des liens très forts. Et à côté de ça, je pense qu'il y a aussi de la rancœur, mais qui est à un autre niveau. Et je pense qu'il y a, en fait, c'est quelque chose qui est très ambivalent, en fait. J'ai le sentiment que peut-être que le mutisme, il est aussi là, dans le sens de quelque chose de très contradictoire, que je ne peux pas saisir.
Il y a toujours ce côté de colonisation, de choses qui pèsent, et qui pèsent même sur, enfin, je pense, même sur notre point de vue.
Bah, moi, clairement, sur ma curiosité, ça a pesé. Je pense qu'il y a de toute façon une chape de plomb qui fait que. On a envie de savoir et on n'a pas envie de savoir. Enfin, il y a quelque chose qui est assez lourd.
C'est pour ça que je disais qu'il y a une double lecture. Parce qu'il y a une histoire sombre de l'Algérie, qu'on sait qu'ils l'ont vue et qu'ils l'ont connue et que nous, on connaît. Et une phase lumière qui est la belle vie, les loisirs, etc. Mais tout ça dans un tourbillon de nostalgie qui emporte tous ces sentiments-là.
On fait un documentaire radio autour de la mémoire pied noir.
Oui.
Enrico Macias, c'est un grand représentant pour et compte beaucoup d'un point de vue musical pour les pieds noirs. Est-ce que vous êtes vous-même pied noir?
Alors moi, je suis pas pied noir du tout. Okay. Je connais Enrico depuis l'âge de 10 ans. Ma mère m'a offert ça pour ma communion solennelle, les vinyles de Enrico. Voilà.
Bonsoir messieurs. Nous faisons un documentaire radio autour de la mémoire pied noir.
Oui.
Est-ce que vous êtes pied noir?
Oui. Écoutez, moi je suis oranais, lui il était de Constantine, mais avec sa musique, il nous rappelle notre pays, quoi. Mais, comme il dit, il faut toujours aller en avant, pas voir l'arrière. Alors donc, il nous encourage à nous maintenir un petit peu, voilà. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison. Enfin, c'est la nostalgie, ça. Enfin, on ne retrouvera plus. Mais, c'est la vie. Mes enfants l'écoutent souvent aussi, enfin, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants aussi, parce que j'ai quand même 88 ans. Et donc, c'est un Enrico, il fait partie de la famille, voilà.
J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie. se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie.
Je connais mal le chemin de la mémoire, ignore l'art du souvenir. Je sais, en revanche, l'oubli, son vertige, sa facilité, sa lâcheté protectrice, ses ruses salvatrices. Je sais aussi, qui sait, qui se rappelle encore et pourquoi. Je sais peut-être pourquoi je ne sais pas, n'ai pas voulu longtemps savoir. Je ne sais pas l'héritage, la transmission, mais je sais le poids de leur ombre, la ténacité des choses tues. Je sais le racisme, les mots bougnots, les bicots, parce qu'entendus, reçus et ne sachant qu'en faire, les rapportant à la maison, les déposant aux pieds des parents. Et la gêne, avec en retour un autre mot, pied noir, qui me semblait alors l'équivalent de main sale. Je sais aussi que tout s'effondre un jour, qu'aucune surface ne tient, ni celle du visage où s'est imprimé le passé, ni celle de la page où l'on voudrait tout confier. Je ne sais pas le respect aux oubliés, pas encore.
Dans le flanc du regret.
Vous savez où est-ce qu'ils sont nés ?
Oui, absolument. Ma mère est née à Détry, donc c'est en Oranie, et mon père à Sainte-Barbe-du-Tléla, village qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant Ouet-Tlilet. J'ai su que ça avait changé de nom parce que j'ai eu l'occasion d'aller travailler en Algérie sur un film, et il se trouve que c'était à une trentaine de kilomètres de ce village, enfin... Donc j'ai demandé un jour à un chauffeur du tournage s'il voulait bien un dimanche m'accompagner dans ce village-là. Et sur ce tournage, il n'y avait que des histoires comme ça, quoi. Tous les lendemains de jours de repos, quelqu'un arrivait avec une histoire qui avait été retrouvée, une ferme là-bas, qui avait été retrouvée des gens là-bas, 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 là-bas. Enfin voilà, la vie est toujours faite comme ça, quoi. D'un coup, il y a sur une année, alors qu'on a essayé de... de mettre les choses de côté en se disant « c'est plus mon histoire », et enfin, voilà, c'est faux. D'un coup, arrive une chose où c'est, ça vient à nous, quoi. Il faut y aller, il faut aller voir, il faut aller comprendre, saisir quelque chose. Et donc, en l'occurrence, j'avais demandé à Ahmed, ce chauffeur, et il m'avait dit « mais bien sûr, je t'accompagne ». Et je lui avais dit « mais tu sais, j'ai très peur, en fait, parce que je sais pas, je sais pas grand-chose ». Bien sûr, il y avait plein de récits sur l'Algérie dans ma famille. Il y avait comme ça une nostalgie sur ce que c'était vivre là-bas. Hein. Et il y avait cette phrase qui revenait souvent, « On était bien ensemble ». Et moi, très vite, adolescente et tout ça, je me disais, « Mais non, vous ne pouviez pas être bien ensemble, ce n'est pas possible. Il y a eu une histoire très dure. » Je ne pouvais pas entendre cette phrase, « On était tous bien ensemble ». En l'occurrence, ce qui suivait, c'était juifs, chrétiens, musulmans, on était tous bien ensemble. Bon. Et donc, je raconte tout ça à Ahmed, et puis il me dit, écoute, t'inquiète pas, on y va. Si je sens que t'es pas bienvenu, on partira, et personne va te faire quoi que ce soit. Voilà. Et puis, on arrive, il me dit, reste dans la voiture, et puis il sort de la voiture, il va voir des gens âgés qui traînaient sur la place, et puis il parle avec eux. Puis là, je vois des hommes qui lèvent les bras, qui font des signes, et puis qui me regardent comme ça, qui se penchent pour essayer de me voir. Et puis il revient, et puis il me dit « Je t'emmène dans la maison de ton père ». On marche doucement, puis là, je vois une maison vraiment hyper modeste, avec les murs abîmés, tout ocre, une sorte de cour... Et là, je rentre dans la maison et puis je vois des femmes en haut d'un escalier qui éclatent de rire, qui ouvrent les bras. Un enfant qui descend, qui vient nous chercher en bas de l'escalier, qui nous fait monter. Les femmes qui crient « Elle est là, elle est là !»
Et on rentre dans la maison, et là, ils me font tout visiter. Ils m'expliquent où dormait un tel, où dormait une telle. Ils me demandent des nouvelles de mon père, de son frère, de ses deux sœurs. Une vieille dame m'imite ma grand-mère qui vendait des glaces dans le village. Et on s'est pris en photo. Ils sont montés sur des escabeaux, ils ont attrapé des valises, ils m'ont fait des cadeaux, ils m'ont offert des babouches, une djellaba. Et c'était extrêmement émouvant. Vraiment, pour eux comme pour moi. Et je veux dire, ils savaient très bien les conditions du départ et tout ça, ils les connaissaient, et ils m'ont pas raconté des choses là-dessus non plus. On est resté dans presque dans un comme un saut dans ce passé-là, et voilà, comme une forme de d'accolade, comme peut-être le moment d'adieu qu'ils avaient peut-être pas eu le temps de se faire entre eux. Je me suis dit ça à un moment. Je me suis dit, ben voilà, on a réconcilié peut-être le temps de la séparation, le temps du départ, quoi. Cette chose-là, enfin ce moment-là, en tout cas, ou même des moments de discussion avec ma mère, m'ont mis face à la complexité de la chose, quoi. C'est sans doute pour ça que qui a comme une forme de douleur ou de nostalgie ou de je sais pas qui se cicatrisera peut-être jamais.
Ce qui est très compliqué pour nous, c'est de dire d'où on vient.
Anne-Marie Pérez.
Vous demandez à un Corse qui passe ses vacances en Corse d'où il vient, il va dire « je suis Corse ». Nous, on ne peut pas dire « je suis pied noir » et on ne pourra jamais retourner dans ce pays de nos parents parce que ce pays de nos parents n'existe plus. C'est un autre pays, c'est une autre culture, c'est une autre façon de vivre, donc ça n'existe plus. Même si on va en Algérie, c'est plus le pays de nos parents. C'est ça, je pense, le processus des exilés, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas retourner et il faut faire les racines ici. Je m'appelle Anne-Marie Pérez et je suis née dans une famille pied-noire originaire d'Oran en juillet 1963. Donc j'ai toujours le plaisir de dire que j'ai été conçue à Oran et que j'ai fait le voyage dans le ventre de ma maman. Voilà, et je me suis toujours sentie très concernée par cette histoire et ses origines. Moi, j'ai toujours entendu parler de l'Algérie. Et je pense que, comme beaucoup d'enfants, j'ai fait l'éponge. J'ai toujours eu conscience d'être pied noir. J'ai toujours eu conscience que c'était quelque chose de différent des autres personnes autour de moi. Et j'ai toujours dit que j'étais d'une famille de pieds noirs. Donc, j'ai une bonne connaissance familiale de la vie de mes parents et de mes grands-parents qui vivaient donc dans la ville d'Oran, qui étaient des petits commerçants en fait, boulangers, épiciers, couturiers. Je connais leur vie en Algérie, je connais le nom des rues, je connais le nom des magasins, le nom des cinémas, des cafés, ce qu'ils mangeaient, quels étaient leurs loisirs, le nom des plages aussi, très important pour les Oranais, et donc j'ai été bercée pendant toute mon enfance par ces histoires. C'était quelque chose, ça a toujours été important pour moi, mais je l'ai toujours dit, j'en ai toujours parlé en fait, parce que dans ma famille, on en parlait tout le temps. Et j'ai été contactée en 2016 pour participer à une enquête sur les enfants de pieds noirs, et j'ai indiqué dans le cadre de cette enquête que moi j'étais prête à témoigner. Et il y a eu un colloque qui a été organisé à Sciences Po Aix-en-Provence en 2017. Et là, j'ai rencontré plein d'autres enfants de pieds noirs comme moi. J'ai rencontré des gens à qui on n'avait rien dit de leur histoire familiale. Donc, c'est peut-être compliqué de parler de ça quand on a zéro information. D'autres qui avaient vraiment l'impression d'avoir été du très très mauvais côté de l'histoire parce qu'ils faisaient partie de cette toute petite minorité de grands propriétaires terriens en Algérie et qui sont venus travailler avec nous dans un groupe de travail qu'on a formé il y a quelques années, presque incognito, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a fait une photo qu'on a partagé entre nous, on l'a pas mis sur les réseaux sociaux, etc. Mais cette personne-là nous a dit, et ça m'a beaucoup touchée, je préfère pas être sur la photo parce que je n'ai pas dit à ma famille que je venais dans ce groupe d'enfants de pieds noirs. Ça montre aussi, voilà, la diversité aussi des vécus et chez les pieds noirs, mais aussi chez leurs enfants.
Je suis Jules Bonnet, j'ai 23 ans, je suis étudiant en art, je suis peintre à Anvers.
Quel membre de votre famille est d'origine pieds noirs?
Mon grand-père maternel est d'origine pieds noirs, est né à Constantine.
Est-ce que votre grand-père vous a parlé de cette histoire, de son rapport à l'Algérie?
Plus récemment, oui. Aussi parce que je pense que ma mère a essayé d'esquiver le sujet les peu de fois où on en a parlé plus tôt. Parce que il devient particulièrement violent quand il en parle, ou en tout cas très sentimental et expressif. Et que donc elle a, je pense, voulu nous protéger, mon frère et moi, qu'on garde une sorte de neutralité jusqu'à un certain âge. Mais là, plus récemment, on en parle quasiment à chaque fois que je le vois, parce qu'avec l'âge, il devient de plus en plus nostalgique aussi, de moins en moins fermé sur le sujet. Et ça finit, effectivement, souvent soit par une dispute, si quelqu'un vient mettre en cause des faits ou nuancer des propos, ou ça vire au sentimentalisme assez vite. Lui avait l'impression d'être chez lui, d'y être de son plein droit, que les Arabes, comme ils les appellent, ont formé une cabale pour le virer, lui et ses semblables, et qu'ils ont été aidés dans cette révolution par le gouvernement français, enfin par Charles de Gaulle particulièrement. Ils ne voient pas pourquoi les gouvernements sont venus mettre leur nez là-dedans et détruire la vie de toutes ces personnes.
Est-ce que votre mère, est-ce que votre grand-père sont retournés en Algérie?
Alors ma mère énormément, parce qu'elle a donc écrit sa thèse sur le sujet et fait des recherches sur la mémoire pieds noirs. Mon grand-père jamais. Et il a refusé, il refuse d'y mettre les pieds jusqu'à sa mort. Et il me semble qu'il refuse même que nous on y aille. Donc je pense que ma mère lui a caché qu'elle était retournée en Algérie.
Pourquoi?
Parce que c'est la terre de l'ennemi. C'est la terre qui nous a mis dehors, qui a blessé à la fois, je pense, notre honneur. Quand je dis nous, je parle de la vision de la famille Buono, vue par mon grand-père, qui n'a plus voulu de nous, dont en retour, on ne veut plus non plus, et on ne veut plus en entendre parler, et surtout pas y retourner.
Est-ce que vous en voulez, je ne sais pas si c'est le bon terme, à votre grand-père d'être toujours dans la rancœur vis-à-vis de cette histoire?
Non. C'est aussi, moi, ma façon de voir les choses et d'interagir avec les personnes, etc. Mais je sais que je suis quelqu'un d'aussi très sentimental et que donc, des événements aussi forts, je comprends que ça crée des traumatismes, qu'il soit impossible de passer outre ces traumatismes. Et je trouve ça infiniment triste, ce qui s'est passé. Et ce qu'il en a tiré, et ce regret qu'il a traîné avec lui jusqu'à aujourd'hui.
Ce qui se passe de manière intéressante, soit à la première génération, soit à la deuxième génération, donc c'est-à-dire la génération des enfants ou des petits-enfants, c'est qu'il va souvent y avoir un phénomène de rupture. C'est-à-dire si les grands-parents sont restés dans quelque chose d'assez nostalgique sur l'Algérie française, pas mal d'enfants ou de petits-enfants vont devoir mettre ça à distance.
Paul-Max Morin, historien.
Enfin, d'abord, rejeter totalement cette vision de l'Algérie française, cette vision de leurs grands-parents, et s'autoriser à reconstruire leur propre vision du colonialisme et de la société française d'aujourd'hui à distance de leurs grands-parents, pour pas être, on va dire, pollués par ces représentations coloniales, parfois racistes, les anecdotes qu'on entend à table sur les Algériens de l'époque, mais aussi les Algériens parfois d'aujourd'hui. Donc évidemment, dans une société postcoloniale de la France d'aujourd'hui, dans laquelle, les petits-enfants ou les enfants ont grandi, ces discours ne sont plus entendables. Donc ils les mettent à distance, ils les rejettent. Ça peut parfois créer des conflits, interpersonnels avec les grands-parents. on va vouloir les mettre complètement à distance, au moins un temps, avant finalement de faire son propre travail sur soi-même, sa propre identité, son propre positionnement, sa propre place dans la société française d'aujourd'hui, d'assumer peut-être cette rupture, et puis de comprendre finalement, de comprendre aussi qui sont les grands-parents, dans quoi ils ont vécu, mais comprendre, c'est pas forcément excuser. C'est pour ça qu'on voit dans cette troisième génération, la génération des petits-enfants, pas mal d'initiatives qui sont prises par des descendants de pieds noirs pour, je ne sais pas, faire des recherches sur les grands-parents, faire des recherches sur le système colonial, aller aux archives, ou pour certains, s'engager dans des choses beaucoup plus collectives comme la création d'un podcast, la création d'un livre, la création d'une exposition, des artistes, des documentaires, etc. Pour en fait connaître leur histoire, comprendre leur présence au monde et ainsi pouvoir se projeter tranquillement dans la société française du 21e siècle qui est une société postcoloniale.
Je m'appelle Valentin Dretz, j'ai 26 ans, je suis professeur des écoles. Trois de mes quatre grands-parents sont originaires d'Algérie. Ça fait donc un ascendant assez fort, qui n'est pas néanmoins, on va dire, une chape de plomb sur la construction de mes parents ou la mienne.
Valentin est descendant de pieds noirs. Il a réalisé son master d'histoire sur la colonisation de l'Algérie et a participé au groupe de discussion Regarde la jeune génération sur les mémoires franco-algériennes, créé en 2021 par l'Élysée dans le sillage du rapport de Benjamin Stora à l'occasion des 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie. Ce groupe, composé d'une quinzaine de membres, avait pour objectif de faire comprendre les revendications de la jeunesse vis-à-vis de cette histoire.
Alors le groupe est composé de représentants d'héritiers de 5 mémoires des relations, enfin de l'histoire de la colonisation de l'Algérie. 5 mémoires, donc descendants d'indépendantistes algériens, descendants de pieds noirs, de harkis, de juifs d'Algérie et d'appelés. Et donc l'objectif est vraiment de parvenir à non seulement avoir leur avis, leurs revendications, mais de les formuler en collectif. D'arriver à créer un dialogue qui bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, pour la première génération, s'est révélé plus difficile. Les revendications de la première génération sont très connues. Première génération de harkis rapatriés ou de pieds noirs rapatriés, ou d'indépendantistes qui seraient vivre ensuite en France, il y en a eu évidemment. On connaît assez bien les revendications de ces groupes mémoriels-là. Et les revendications de la troisième génération, donc finalement, on sait moins ce qu'ils veulent. On a eu quelques disputes au sein du groupe, c'est normal, hein, quand on apprend à se connaître et qu'on a des mémoires aussi antagonistes parfois, encore une fois, c'était pas mon cas, mais des choses qui sont racontées dans les familles, qui sont en contradiction avec ce qui est raconté dans les autres familles, ou même avec l'histoire telle qu'elle est aujourd'hui établie. Arriver à trouver un terrain d'entente, au début, c'était compliqué. Et là, j'ai pris conscience d'à quel point ça pouvait faire souffrir non seulement ceux qui l'avaient vécu, mais les héritiers, les descendants, les petits-enfants. À quel point ça pouvait chez eux être un poids quotidien, quelque chose d'extrêmement dur à avaler, d'extrêmement sensible. J'ai pris ça de plein fouet, vous voyez. Ah bon, on peut à ce point souffrir aujourd'hui en tant que petit-fils ou petite-fille? Pourquoi peut-on encore souffrir? Alors certes, on peut avoir un héritage douloureux qui nous est transmis. Mais comment est-il possible qu'on n'arrive pas à le surmonter, à dépasser cette souffrance? Au sein de ce groupe, on est arrivé peut-être à la conclusion que notre génération manquait tout simplement d'espace de dialogue pour vraiment échanger de manière apaisée sur ces sujets-là.
Quel est votre lien familial avec l'Algérie française?
Avec l'Algérie française,
Valentin Frex.
Mon lien familial, mon grand-père, voilà, qui est né en Algérie. Et originaire d'Italie et de Grèce.
Qu'est-ce que vous savez de cette histoire familiale en Algérie ?
Eh ben, très peu de choses. Beaucoup de silence. Je connais davantage le silence que l'histoire de ma famille. Je sais d'où ils viennent, mais de trois générations avant. Mais la vie en Algérie, j'en sais rien du tout, quoi. Ouvrier, je sais pas, employé de mairie, je sais pas, je connais rien du tout, quoi. C'est un silence absolu, quoi. C'est à l'échelle d'une vie, je pense, si j'ai peut-être 5 phrases, c'est peut-être à peu près tout, quoi, sur l'Algérie, quoi, et encore. Et mon arrière-grand-mère, et voilà, ils ont immigré à Marseille, donc en 62. Et la dernière fois, j'y suis retourné, donc dans la cité de mon arrière-grand-mère, c'était au début des années 90. J'étais pas retourné à Marseille depuis. Et il se trouve qu'il y a 3 ans maintenant, je suis retourné à Marseille. Et là, je me suis pris une grosse claque. Quand je suis arrivé à la gare, en fait. Et, donc, quand tu sors de la gare Saint-Charles et que tu vois Notre-Dame, là, j'ai pris une grosse claque. Ça m'a ému. Ça m'a ému parce que, voilà, il y a... je suis désolé. Ouais, ça m'a ému parce que cette absence d'histoire, elle pèse. Mais c'est pas tacite, c'est latent. C'est dans, voilà, chez ma famille, c'est le mutisme qui prend le pas sur tout, quoi. Donc, les seules traces que moi je garde de, on va dire, de cette identité, de cette culture-là, c'est via la cuisine, quoi. J'ai ma mère qui a collecté les recettes de cuisine de mon arrière-grand-mère. C'est quand moi je cuisine. Quand je cuisine, voilà, que j'y pense, que je me rappelle des trucs de mon arrière-grand-mère à Marseille, dans le quartier nord de Marseille. Voilà, c'est des bribes comme ça, mais ça reste que des bribes, quoi. Il y a pas de, on n'a même pas un récit initial pour avoir des bribes, enfin, dans lesquelles on construit des bribes. C'est, on a des bribes de bribes, à part le couscous. c'est les boulettes mémorielles, c'est là, quoi.
Est-ce que vous en voulez à votre grand-père ?
Pourquoi ?
De ce silence.
On va dire que plus jeune, oui, je lui en voulais. J'avais un regard beaucoup plus sévère. Pour moi, tous les pieds noirs étaient coupables, enfin, de tout. Et c'est vraiment, justement, à travers la littérature et le regard de différents positionnements, etc., où j'ai un peu nuancé. Après, c'est vrai que c'est un silence qui m'habite, dans le sens où, même si j'essaie de ne pas porter de jugement sur ce qu'il a pu faire, parce que je sais qu'il y a des atrocités qui ont été faites par ma famille, mais qu'il y a aussi des meurtres subis aussi dans ma famille, et en fait, c'est pas, donc, c'est, je lui en veux pas, mais c'est un regret d'absence de, on va dire, d'un tableau global, en fait, de la vie là-bas. Il y a une espèce de sentiment de culpabilité, mais qui est totalement mythifié, quoi. Donc moi, c'est vrai que ça me perturbe un petit peu quand il y a des récits, on va dire, d'histoires familiales, de pieds noirs, ou même de manière générale, quand il y a des gens qui ont la richesse du récit de leur famille, ben moi j'ai rien, quoi. Ils sont là, mais j'ai rien. Et je pensais à ça par rapport à mon fils, là, qui est né en juillet dernier. Je me disais, est-ce que lui, il y aura quelque chose qui passera, voilà, qui sera transmis à lui de cette culture-là, ou je suis la dernière.
Moi, je me sens, en fait, maintenant, je me sens apaisée sur mes questionnements intimes de mes parents, de leur rapport à ça. Je regrette beaucoup de ne pas avoir parlé plus avec mon père. Et mon père, il en parlait, mais il en parlait finalement moins. Par contre, il était pâtissier, mon père, il faisait des pièces en sucre et tout ça. Mais un jour, il a fait la Santa Cruz d'Oran en sucre. Mais ça, il a fait un truc énorme, hein, ça mesure 1m50 sur 1m50, quoi. Et il a mis ça sous verre, c'est encore à 7, hein. Dans l'appartement où ils ont vécu. Je ne sais pas quoi en faire, mais c'est voilà. Donc il avait fait cette chose-là avec des roses en sucre soufflé, avec je sais pas, il a fait ça, j'avais 7-8 ans quand il a fait cette pièce. Donc je pense que c'était une manière de rendre un hommage à cet endroit, à ce pays, à l'Oranie. Je me dis que la grande histoire et les petites histoires, c'est vraiment... enfin, les petites histoires se font et se défont dans la grande histoire, mais Est-ce que la grande histoire prend en compte les petites histoires? Dans ce sens-là, je pense que oui, c'est important de faire mémoire de quelque chose et que ça va être important pour encore longtemps. Pour les descendants d'Algériens de cette époque-là, énormément aussi. Et j'en ai reparlé avec mon fils, Julo, et Jules, il en parle très bien, mais je sens déjà que lui, il a une distance, même s'il était hyper proche de ses grands-parents, il a une plus grande distance que moi avec ça, déjà. Et il en parle extrêmement bien, avec beaucoup de clarté, quoi. Et presque de l'humour, et une distance qui lui permet de dire des choses que moi, je ne dis pas. Voilà.
Il a fait aussi, je crois, une musique avec votre maman,
ouais, avec sa grand-mère. Oui, parce qu'ils échangeaient pas mal de choses tous les deux. Et ma mère, on l'a pas emmenée en Algérie, mais on l'a emmenée en Espagne, dans le village de son père.
On ne va pas parler de la meute, parce que c'est jeune.
C'est pas grave.
Bien la première fois.
Et on a retrouvé toute une famille qu'elle ignorait, et que cette famille-là ignorait aussi. C'était un voyage assez extraordinaire. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, on était épuisés, mon compagnon Roberto, mon fils et moi, dans la voiture, on était épuisés parce qu'on l'emmenait partout. Et puis elle chantait tout le temps dans la voiture. Et je crois que c'est au retour de ça que Jules a fait la fête chanter, et l'a enregistrée et a écrit une musique pour elle.
Merci à Magali Montoya, Jules Churin, Pierre Arella, Frédéric Arella, Laurence Malonda, Valentin Frex, Anne-Marie Pérez, Jules Bonnet et Valentin Dretz. Merci à Karima Diresh, Jens Keldozurker, Eric Savarez, Paul Max Morin, Franck Moillier, au CDHA d'Aix-en-Provence et au studio d'ici Isère. Extrait de texte, La maison indigène de Christophe Clarot, lu par Johanna Nizar. Prise de son, Benjamin Reyes, Nadège Antonini, Stéphane Foulon, Ludovic Ogier, Benjamin Perru, Anthony Maillet de Santis et Youssef Boubekeur. Mixage, Manuel Couturier. Documentation, Annelise Signoret. Archivina, Véronique Jolivet. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Les pieds noirs d'Algérie, la colonisation pour mémoire. Épisode 1, les descendants face à leur histoire. Un documentaire de Marceau Vassy, réalisé par Cécile Lafont.